Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 15 août 2017, en direct de Washington, Idrissa Seruya et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Le Burkina Faso, toujours sous le choc après la dernière attaque terroriste qui a fait 18 morts dimanche à Ouagadougou. Un deuil national de 3 jours a débuté lundi.
18 morts également au Mali après 2 attaques par des hommes armés contre des camps de la MINUSMA.
En Sierra Leone, au moins 312 morts selon la Croix-Rouge à Freetown à la suite de pluies torrentielles.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump est revenu sur les violences racistes de Charlottesville pour dénoncer explicitement des groupes d'extrême droite.
Nouvelle mise en garde du secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, à la Corée du Nord.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
C'est toujours le choc au Burkina Faso après l'attaque meurtrière de dimanche. Hier, les autorités ont donné des explications. Maïsa Sérémé, la procureure du Faso, a indiqué à la presse que les deux assaillants abattus étaient, je cite, « très jeunes, de peau claire et noire ». Fin de citation. Elle a aussi donné des détails sur l'identité des victimes. On écoute Maïsa Sérémé, procureure du Faso.
Nous déplorons malheureusement 18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiées, dont 8 Burkinabés, 2 Koweïtiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. 3 corps sont en cours d'identification. Les 2 terroristes ont été abattus. Nous déplorons aussi 22 blessés, dont 5 de nos vaillants forces de défense et de sécurité. 40 personnes ont été libérées et nous enregistrons des dégâts matériels très importants. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste contre X, afin d'aider à l'identification des hôtes, des complices ou des facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste, nous lançons un appel à témoins.
C'était Maïsa Sérémé, procureur du Faso.
Au Mali, une double attaque lancée par des hommes armés non identifiés contre des camps de la MINUSMA a fait hier 18 morts, dont 14 à Tombouctou et 4 à Douanza. Si la situation a été maîtrisée dans cette dernière localité, en revanche, l'armée malienne était encore hier soir à la recherche des assaillants infiltrés dans la ville de Tombouctou. Le point avec notre correspondant, Kassim Traoré.
Tout a commencé vers 14h quand des tirs nourris provenaient du quartier général de la MINUSMA dans la ville de Tombouctou. Il s'agissait d'une attaque des hommes armés non identifiés. Après 4 heures de combat, le bilan fait état de la mort de 5 gardes de la sécurité de la MINUSMA, tous de nationalité malienne, d'un membre de la gendarmerie malienne, d'un agent civil contractuel de la MINUSMA. Un garde de sécurité malien et 6 casques bleus ont été blessés, dont 2 grièvement. 6 assaillants ont été abattus lors de la riposte de la MINUSMA à l'attaque. Pour une des rares fois, les casques bleus ont réagi rapidement en déployant une force de réaction rapide destinée à sécuriser le quartier général de la mission et des hélicoptères d'attaque pour traquer d'éventuels assaillants. Quelques heures avant, la MINUSMA avait subi à Douanza une attaque terroriste. C'était vers 5h du matin, les camps de la MINUSMA à Douanza dans la région de Mopti ont été la cible d'une attaque coordonnée par des hommes armés non identifiés aussi. Les casques bleus ont riposté et 2 assaillants ont été abattus. L'attaque a fait 2 victimes, un membre de l'armée malienne et un casque bleu. Un autre casque bleu a été légèrement blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, le gouvernement et la principale centrale syndicale ont signé un accord pour une hausse du salaire minimum et le paiement d'arriérés de salaire, ce qui a mis fin à la grève des fonctionnaires. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le travail a repris hier lundi dans la fonction publique suite à un accord entre le gouvernement et la centrale syndicale. Toumani Baldé, ministre de la fonction publique, a confirmé la signature d'un mémorandum en ajoutant que le gouvernement a pris des engagements dont le réajustement du salaire minimum et le paiement des arriérés selon un calendrier. L'Union nationale des travailleurs de la Guinée-Bissau avait lancé le 8 août une grève de 3 jours qui avait paralysé toute la fonction publique. Le syndicat réclamait une hausse du salaire minimum de 19 200 à 59 000 francs CFA et le paiement d'arriérés de salaire dû au titre de l'année 2003. La Guinée-Bissau est un des derniers pays dans le classement du PNUD basé sur l'indice de développement humain. Le pays a connu plusieurs années d'instabilité marquées par des coups d'État et des mutineries de soldats.
En Sierra Leone, des pluies torrentielles accompagnées de coulées de boue et de glissements de terrain ont surpris tôt lundi matin les habitants de la capitale Freetown, faisant au moins 312 morts et 2000 sans-abri, selon un nouveau décompte de la Croix-Rouge, décompte qui risque encore de s'alourdir. Les officiels sierra-léonais, eux, parlent de 200 morts au moins. Ces inondations font d'ores et déjà partie des plus meurtrières en Afrique au cours des 20 dernières années.
Le Kenya est suspendu mardi aux lèvres du leader de l'opposition, Raila Odinga, qui doit expliquer la stratégie qu'il entend adopter pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta. Cela pourrait à nouveau faire monter la tension dans le pays. Déjà défait 3 fois auparavant à la présidentielle, M. Odinga a décidé de ne pas s'incliner sans avoir mené jusqu'au bout ce qui pourrait être sa dernière grande bataille politique à 72 ans. L'annonce de la réélection vendredi soir de M. Kenyatta avait immédiatement déclenché des violences qui ont fait au moins 16 morts, dont une fillette de 9 ans, dans les fiefs de l'opposition.
En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, a comparu hier à Lusaka au premier jour de son procès. Accusé de trahison et en prison depuis avril, il risque jusqu'à la peine de mort. Le point avec Abdulrahman Dia.
À l'ouverture de son procès, l'opposant zambien a plaidé non coupable. Le parquet a obtenu un ajournement de l'audience jusqu'à demain mercredi. Des dizaines de policiers anti-émeutes ont quadrillé l'accès au tribunal. Plusieurs journalistes étrangers se sont vus refuser l'accès à la salle d'audience. Hakainde Hichilema est incarcéré dans une prison de haute sécurité pour avoir, selon le dossier d'accusation, gêné le passage d'un convoi du président Edgar Lungu, dont il conteste la réélection il y a un an. S'il est reconnu coupable, le dirigeant du Parti Uni pour le Développement National risque un minimum de 15 ans de prison et, dans le pire des cas, la peine de mort. Son arrestation musclée en avril dernier a constitué un tournant dans l'escalade des tensions en Zambie. À la mi-juillet, le Parlement a voté l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois après une série d'incendies criminels attribués par le pouvoir à l'opposition zambienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a dénoncé hier les violences racistes du week-end dernier à Charlottesville, en Virginie. Samedi, dans ses premières déclarations sur ces événements, M. Trump n'avait pas dénoncé explicitement les tenants de la suprématie blanche et les néo-nazis, s'attirant ainsi de nombreuses critiques. Eric Manirakiza.
Hier, Donald Trump a changé de ton. Dans une brève allocution, il a qualifié de criminels et voyous le Ku Klux Klan, les néo-nazis et les suprémacistes blancs. Sa déclaration initiale n'avait pas désapprouvé nommément les militants d'extrême droite xénophobes. Cela avait provoqué une vague d'indignation, y compris dans son propre camp républicain. Samedi, à Charlottesville, en Virginie, un militant néofasciste a intentionnellement percuté avec son véhicule des manifestants antiracistes, tuant une femme et faisant 19 blessés. M. Trump a assuré que ceux qui ont agi de manière criminelle devront répondre de leurs actes devant la loi et que justice sera rendue. Le racisme, c'est le mal, a lancé le chef de la Maison-Blanche.
En France, une jeune fille de 13 ans a été tuée lorsqu'une voiture a foncé hier soir dans la devanture d'une pizzeria en banlieue de Paris. Les premières déclarations du chauffeur permettent d'écarter la piste terroriste. Le suspect interpellé après les faits aurait voulu se suicider selon une source judiciaire. 4 autres personnes sont dans un état très sérieux et 8 autres ont été légèrement blessées.
Le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, a mis en garde la Corée du Nord contre toute tentative de lancer des missiles contre le sol américain, disant que cela pourrait rapidement mener à une escalade vers la guerre. Hier, l'agence de presse nord-coréenne a annoncé que le leader Kim Jong-un a reçu un rapport de son armée sur un plan pour tirer des missiles autour de Guam, un territoire américain dans le Pacifique. Selon la même agence d'État, Kim a dit qu'il va continuer à suivre pendant un certain temps encore les actions des États-Unis avant de prendre une décision à ce sujet. Le chef du Pentagone n'a jamais hésité à utiliser un discours musclé vis-à-vis de Pyongyang, mais M. Mattis a toujours souligné que Washington préférait une solution diplomatique à l'impasse avec la Corée du Nord.
La Chine a averti aujourd'hui qu'elle ne restera pas sans agir et défendra vigoureusement ses droits si les États-Unis adoptent des sanctions entravant le commerce entre les deux pays. Le président Donald Trump a ordonné hier à son représentant au commerce Robert Lighthizer d'ouvrir une enquête pour déterminer si la politique commerciale chinoise nuit aux entreprises américaines dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Jacques Aristide.
Kinshasa vient de réintroduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations des groupes miniers actifs en RD Congo. Le gouvernement avait suspendu cette TVA en juillet 2016 et remboursé environ 700 millions de dollars à ces compagnies. Le gouvernement cherche à accroître ses revenus fiscaux face à de graves problèmes économiques, dont une forte inflation, la flambée des prix des denrées alimentaires, de faibles réserves de change et la chute vertigineuse du franc congolais, des problèmes exacerbés par les troubles politiques. Le principal indice du marché boursier kényan a atteint des proportions jamais connues en 14 mois. Le NSE 20 a augmenté de près de 7% depuis mardi dernier, signe, d'après les observateurs, que les investisseurs accueillent favorablement la réélection du président Uhuru Kenyatta, même si son rival Raila Odinga n'a pas encore accepté sa défaite. Après les violences meurtrières, les commerces ont rouvert leurs portes hier dans la capitale Nairobi. 15 jeunes entrepreneurs africains ont été choisis comme finalistes parmi plus de 800 candidats pour le 7e prix Anzisha. Ce prix de 100 000 dollars récompense notamment les jeunes entrepreneurs qui créent de l'emploi. Pour la première fois, des candidats d'Angola, du Libéria, de l'île Maurice et du Soudan participent au concours.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cristiano Ronaldo, suspendu en Espagne.
Eh oui, le Madrilène a été suspendu 5 matchs suite à son exclusion controversée lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne, remportée par le Real Madrid à Barcelone, 3-1. L'attaquant portugais, qui encourait jusqu'à 12 matchs d'absence, est suspendu pour une rencontre pour son exclusion, la 10e de sa carrière, et 4 autres pour avoir légèrement poussé l'arbitre en signe de désapprobation. Le buteur vedette du Real devrait ainsi rater, en plus du match retour mercredi au stade Santiago Bernabéu contre le Barça, les rencontres de championnat contre le Deportivo La Corogne, Valence, Levante et la Real Sociedad.
Barrage de la Ligue des Champions.
Empêtré dans l'imbroglio autour du Brésilien Philippe Coutinho, convoité par le FC Barcelone, Liverpool se déplace tout à l'heure à Hoffenheim en match aller des barrages de la Ligue des Champions. De son côté, le Sporting Portugal aura une tâche également compliquée contre le CFR Bucarest, avec en plus la difficulté d'un match retour en Roumanie. Les 10 clubs vainqueurs de ces barrages de C1 rejoindront les 22 autres directement qualifiés en phase de poule, dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco. Les perdants seront reversés en Ligue Europa.
Tennis, ça bouge au classement ATP.
Ah ouais, l'Allemand Alexander Zverev continue son explosion fulgurante au classement ATP, il est désormais 7e, son meilleur classement. Ce classement est toujours dominé par le Britannique Andy Murray, qui perdra toutefois sa place de numéro 1 mondial à la fin de la semaine au profit de Rafael Nadal. Chez les dames, l'Ukrainienne Elina Svitolina a atteint son meilleur classement, 4e après sa victoire à Toronto contre la Danoise Caroline Wozniacki. Les deux jeunes femmes se rapprochent doucement du siège de numéro 1, toujours occupé par la Tchèque Karolina Psikova.
Cyclisme, retour à la maison pour Louis Mentiès.
Le Sud-Africain reviendra chez Dimension Dada la saison prochaine, annonce hier de l'équipe du World Tour. Le grimpeur âgé de 25 ans y avait fait ses débuts entre 2013 et 2015, avant de rejoindre la Lampre Mérida, devenue UAE Emirates cette année. 8e du Tour de France en 2016 et 2017, Menchez pourrait atteindre le podium de l'une des grandes courses du World Tour. C'est ce qu'espère en tout cas sa nouvelle équipe.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'attaque terroriste perpétrée dimanche soir à Ouagadougou et qui a fait 18 morts au Burkina Faso. Les deux assaillants ont été abattus. Le président ROC, Marc Christian Kabore, a souligné l'indignation des Burkinabés tout en soulignant qu'ils doivent surmonter cette épreuve. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
En ce lundi, lendemain de l'attaque terroriste qui a frappé Ouagadougou, le ministre de la Communication a fait le bilan. On écoute Rémi Dandinou, le ministre porte-parole du gouvernement.
Voilà la situation actuelle. Donc 18 victimes, 8 blessés que nous avons dénombrés. Nous avons également l'information de la neutralisation de 2 terroristes par nos forces de défense et de sécurité. Pour les blessés, il y a une évolution potentielle sur laquelle nous pouvons nous attendre.
Cette attaque est la deuxième du genre perpétrée sur les mêmes lieux, l'avenue Kwame Nkrumah. Nous avons rencontré le parqueur, autrement dit, celui qui garde les véhicules automobiles et les motos. Il a vécu en direct l'attaque.
C'était devant moi, c'était des zombies. C'était des motos. Donc ils ont venu. Donc ils ont volé les motos. Moi, ils venaient par même, j'ai à côté de eux. Ils venaient par moto pour les voir garer. En même temps qu'ils ont vu, boum, là. Moi, ils sont venus pour les voir quoi, quoi. Ils ont commencé par tirer maintenant. Ils sont venus en bourson. L'autre était un peu clair, mais l'autre n'est pas trop clair, c'est un peu de noir. Quoi. En même qu'ils ont tiré, c'est pas un arbre, c'était un pistolet. On avait dit, en même temps qu'il fait coum là, ça commence même pour le tirer.
Travaillant dans le bâtiment adjacent au restaurant Istanbul, Seydou Saint-Poré reste toujours sous le choc.
Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment qualifier ce genre d'action, mais c'est horrible. Tuer des gens à sang-froid, vraiment, c'est horrible. C'est terrible. C'est terrible. On reste là, on travaille souvent jusqu'à 20h, 21h, qu'on a beaucoup de dossiers. Quand on a appris effectivement que cette attaque hier, on s'est tout de suite dit, mais si c'était un jour ouvrable, et puis on pouvait être à côté, et puis on pouvait être victime aussi. Donc ça nous a choqué.
Que faire face à une telle situation? Les Burkinabés se confient.
Je ressens beaucoup de peur, parce que et ce qui nous arrive successivement là, ce qu'il faut faire, c'est que les forces de l'ordre doivent collaborer beaucoup avec la population, que quand on sent une personne suspecte, qu'on puisse les dénoncer.
Le terrorisme là, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Maintenant, il faut vraiment chercher des voies et moyens comment contrer ces genres d'attaques. Chaque fois, ils sont en train d'endeuiller la population, les familles, c'est pas intéressant. C'est qu'on peut faire. Non, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Il faut l'ensemble, beaucoup de personnes, trouver une solution réellement et puis que ça soit vraiment rapidement vite fait.
Je sors par exemple le soir pour prendre un peu de l'air et puis brusquement tu trouves des gens qui viennent t'agresser comme ça. Donc c'est pas facile. Là, moi je condamne ça. Si les civils se communiquent entre eux-mêmes avec les hommes de tenue, moi je pense qu'ils peuvent régler. Ces histoires de terrorisme en tout cas éviter.
Le président du FASO, dans un tweet, tout en condamnant avec la dernière énergie l'attaque qualifié d'ignoble, a indiqué que le Burkina se relèvera de cette épreuve. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'inquiète du nombre croissant de personnes menacées par la faim. La majorité de ces personnes se trouvent dans les zones affectées par les conflits, notamment dans les régions du Tanganyika et le Kasaï. Solange Nyamulisa a joint Alexis Bonté, représentant par intérim de la FAO en RDC.
On a pu estimer qu'il y avait environ 7,7 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire assez grave. C'est une augmentation d'environ 30% du nombre de personnes qui sont dans une crise alimentaire d'urgence. Et la raison principale est liée à deux types de conflits qu'on retrouve d'une part au Tanganyika, donc ça c'est à l'est de la République, où il y a un conflit communautaire, et au niveau des provinces du Kasaï. Rien que pour ces deux conflits, on a pratiquement 2 millions de déplacés, entre guillemets, nouveaux par rapport à l'année passée.
À part la région du Tanganyika et le Kasaï, est-ce qu'il y a d'autres régions touchées par cette faim extrême?
Au-delà des deux zones qui ont été affectées au cours des derniers mois, donc le Tanganyika et le Grand Kasaï, il y a tout l'est de la RDC, donc principalement le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et ces provinces, ça fait pratiquement deux décennies, elles sont sujettes à de l'insécurité ou à de l'instabilité due à des groupes armés qui malheureusement sévissent dans les campagnes et qui provoquent également des déplacés. 80% d'entre elles sont accueillies par les familles locales. Donc même ces familles maintenant, au lieu de nourrir 5, 6, 7 personnes, maintenant elles doivent nourrir pratiquement 10 personnes, et tout ça avec la même superficie de terre. Donc elles n'ont pas pu augmenter leur production.
Quelle est la différence entre la famine et la faim extrême?
Pour déclarer une famine, il faut à la fois qu'il y ait 30% de malnutrition aiguë et qu'il y ait également le doublement du taux de mortalité journalier par rapport à la normale. Et il faut également qu'il y ait 20% de la population concernée qui soit dans un manque d'accès extrême à la nourriture. Donc il faut ces trois conditions pour déclarer une famine. Au Congo, même si les gens sont dans une situation très difficile, ça va être quasiment impossible d'avoir une famine parce que la nature est extrêmement généreuse, mais les gens vont avoir une faim assez élevée parce qu'ils vont avoir un manque de diversité au niveau de l'alimentation, de l'équilibre, mais également au niveau des quantités.
Par rapport à cette faim extrême qui menace la population congolaise, qu'est-ce qui doit être fait?
Les causes principales, c'est surtout l'insécurité. Et la deuxième cause, la pauvreté chronique. Le niveau de pauvreté chronique, il est d'environ 60%. Et des régions comme au Kasaï, et même avant le conflit, c'était de l'ordre de 75%. Ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement, avec les partenaires au développement ou les partenaires humanitaires, on puisse travailler ensemble pour que, d'une part, le gouvernement puisse continuer à poursuivre ses efforts à remettre la sécurité sur l'ensemble du territoire et que les affaires humanitaires puissent bénéficier des financements des bailleurs de fonds pour pouvoir aider, d'une part, maintenant, dans l'urgence, à donner des aliments aux personnes déplacées et aux familles. Mais également, comme toutes ces personnes pratiquement sont des agriculteurs, il faut qu'on puisse redonner des semences, des outils, des capacités de production à ces gens pour qu'ils puissent retourner à une vie normale avec le maximum de dignité possible grâce au travail qu'ils pourront reprendre et pouvoir s'alimenter par eux-mêmes, pouvoir retrouver des revenus et avoir une réinsertion sociale et économique la plus correcte possible.
La faim extrême en RDC, Alexis Bonté, représentant par intérim de la FAO en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le lac Tanganyika, l'un des plus profonds du monde et que se partagent quatre pays, est sérieusement menacé par la pollution. En fait, l'ONG Global Nature Fund estime que ce lac est le plus pollué du monde. De Bujumbura, la capitale burundaise, qui est à côté du lac Tanganyika, reportage de notre correspondant Christophe Kurunziza.
Quand l'on arrive à une place appelée Komase dans le quartier industriel de Bujumbura, une odeur pestilentielle accueille les clients venus se désaltérer. Des alluvions qui charrient les eaux de ruissellement, des déchets ménagers, des huiles de moteur polluent énormément le lac Tanganyika, comme l'explique le plus grand environnementaliste burundais, Albert Mbonerane.
Il y a une seule chose qui peut être faite, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Le jour où le président de la République ira voir cette situation, il aime la nature, mais je souhaiterais qu'un jour il se déplace, qu'il aille sur le site Komase à 15h, quand le lac Tanganyika est en train de vomir, parce que c'est là où il va sentir cette odeur nauséabonde. Et depuis ce jour-là, il va prendre des mesures pour dire plus de pollution des eaux du lac Tanganyika. Il y a des eaux usées qui sortent des industries qui devraient être refoulées vers la station d'épuration de Buterere. Donc c'est une autre source de pollution. La deuxième source de pollution, c'est le grand garage que l'on a au Burundi. C'est toute la zone qu'on appelle Buyenzi. Toutes ces huiles sont jetées dans les caniveaux. Et tout ça, ce sont des sources de pollution. Mais tant que cette volonté politique n'existe, comme le disait l'ancien vice-président américain Al Gore, nous pouvons tout dire, il n'y aura aucun résultat.
Que faut-il faire pour enrayer cette spirale nauséabonde du lac Tanganyika? Albert Mbonerane.
Le lac Tanganyika, il est en train d'être abîmé par qui? Par nous, les êtres humains, en lui donnant en revanche des déchets ménagers et puis des déchets liquides pollués. Le gouvernement aussi a ce qu'on appelle la politique nationale d'assainissement. Tout ça, ça existe. Qu'est-ce qu'on a fait?
Sur cette plage est érigé un bistrot jadis prisé par de nombreux habitants de la capitale, mais les clients ne sont plus légion ces derniers temps à cause de cette odeur causée par le sang venant d'une usine des pots de bétail proche. Albert Monerané estime qu'il faut arrêter les mesures pour endiguer cette pollution du lac Tanganyika qui renferme les plus grandes réserves d'eau douce du monde.
L'urgence serait la réhabilitation de la station de pompage qu'on appelle numéro 1, la station qui se trouve juste du côté de Chanik. Il faudrait que le gouvernement mobilise les partenaires pour que la station d'épuration de Boutelele fonctionne très bien.
Le ministère de l'Environnement reconnaît que le lac Tanganyika est menacé. Le ministère demande à tout un chacun de faire son possible pour protéger le lac Tanganyika. Sinon, des mesures draconiennes seront incessamment prises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Branle-bas au Cameroun pour maintenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 dans le pays. Après les propos du président de la CAF sur l'incapacité du Cameroun à accueillir la compétition, les autorités camerounaises mettent désormais les bouchées doubles pour relever le défi. Le président du Cameroun est même sorti de sa réserve habituelle pour rassurer le public. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Le 10 août dernier, face aux athlètes camerounais médaillés de diverses compétitions internationales, courant 2017, Paul Biya a lâché ces quelques mots.
Le Cameroun sera prêt le jour 10. J'en prends l'engagement.
Le jour d'après, un comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a été créé par décret présidentiel. Au cours de la même semaine, l'attribution des marchés de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives et hôtelières a été accélérée, notamment pour Garoua, l'un des sites de la compétition au nord du Cameroun. Le tout s'est fait, citation, sur très haut accord du président de la République. À Olembe, banlieue où se construit le deuxième stade de Yaoundé, 60 000 places, le palais des camions se fait désormais à un rythme effréné. Toutefois, les visiteurs du site d'Olembe sont surpris par l'état d'avancement des travaux, à l'instar de ce jeune vacancier à Yaoundé.
Je savais que j'allais venir trouver qu'il y a quand quelque chose d'implanté, mais j'ai été très surpris que je viens, je trouve encore la terre rouge. J'étais vraiment déçu.
L'opinion publique, quant à elle, n'a pas été en marge de ce branle-bas.
Le président de la CAF ne peut pas faire une sortie comme celle-là alors que la première mission de son règne n'est pas encore arrivée au Cameroun. Tout ce qu'il a dit, je trouve ça un peu léger.
La sortie du président de la CAF, ça a été même une insulte vis-à-vis du Cameroun. Et je crois qu'il serait de bon ton qu'il puisse s'excuser vis-à-vis du peuple camerounais.
La Fédération camerounaise de football est elle aussi montée au créneau et insiste désormais sur la violation du règlement des compétitions par la CAF. Docteur Francis Vaine, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football.
Le comité exécutif de la CAF peut apporter des modifications au règlement pour les éditions à venir de la compétition. 2019 et 2021 ne sont pas concernés parce que ce cahier des charges dit qu'il peut être modifié pour les éditions à venir.
Le 20 août prochain est attendu au Cameroun la visite d'inspection de la CAF composée des experts et d'un cabinet d'audit qui va évaluer si l'organisation de la CAN 2019 sera encore maintenue au Cameroun ou pas. Emmanuel Jontap, Yaoundé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOAAfrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le Monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le Monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le Monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.